Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand devient-on vieux? Un texte de Joanne Mercier, paru le 7 décembre 2024 dans Virage. Quand devient-on vieux? Il fut un temps où l'on était vieux quand on avait les cheveux blancs, que l'on prenait sa retraite et endossait son premier chèque de pension de vieillesse, tout en se rapprochant dangereusement de la mort. Aujourd'hui, on est vieux quand... Même la phrase reste en suspens, car il y a mille façons de l'être ou de ne pas l'être. La vieillesse n'est plus ce qu'elle était. On n'a qu'à regarder autour de soi pour constater que plus on s'en approche, plus on la repousse. Après 50 ans, ceux que l'on considère comme vieux ont 10 ans de plus que soi, observe le docteur David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. J'ai rencontré des personnes de 80 ans qui refusaient d'aller vivre dans une résidence pour personnes âgées en disant que c'était pour les vieux. Ironique? Peut-être, mais cette résistance parle du refus de s'identifier à une génération stigmatisée et près de son dernier souffle, alors que l'on se considère comme généralement plus jeune que son âge biologique. Un nouveau troisième âge. Il y a 30 ans, René se souvient d'avoir consolé sa mère condamnée par un cancer en lui disant que mourir à 77 ans était dans l'ordre des choses et qu'elle avait eu une bien belle vie. J'ai aujourd'hui son âge. Et si j'ai eu une bien belle vie, moi aussi, je suis loin d'être prête à me faire servir ce discours. J'ai bien sûr l'impression d'être vieille quand mes genoux me font souffrir, mais je me sens encore jeune quand je reçois des amis et qu'à minuit, je range la cuisine en écoutant Charlotte Cardin. Les études confirment un changement de perception face à l'âge, notamment avec l'espérance de vie qui s'allonge, et ne permet plus de mettre toutes les personnes aînées dans le même panier. Le troisième âge s'est fracturé en deux groupes, les vieux jeunes et les vieux vieux, ouvrant la porte à un quatrième âge où les signes du déclin sont plus évidents, constate le docteur Lucier. Un nouveau troisième âge occupe donc maintenant l'espace de la retraite à la vieillesse. Il est rempli de femmes et d'hommes de 65 à 85 ans qui jouent au pickleball, voyagent en VR et recherchent des expériences ultimes pour nourrir les belles années qui leur restent. La vieillesse ne serait donc plus tant une question d'âge, mais plutôt le regard que l'on pose sur le présent. Affecté de temps en temps par des bobos sans gravité, Pierre, 69 ans, définit la vieillesse comme un désintéressement devant les petites choses de la vie et devant la nouveauté. C'est important de s'intéresser aux nouvelles musiques, aux nouveaux livres, aux nouvelles technologies. Pas besoin d'y adhérer ou d'aimer, mais conserver intacte sa soif de découverte permet de regarder en avant et de continuer à avancer. Plus qu'un chiffre, malgré tout. Cependant, n'en déplaise aux optimistes, l'âge n'est pas qu'un chiffre. Car peu importe qu'une personne soit en forme ou non, elle transporte dans ses bagages la somme des années vécues. Au fil du temps, la perte graduelle de capacité physique s'inscrit dans une série de petits changements dont on peut s'accommoder. Moins de ski alpin après 55 ans, plus de fatigue après 65 ans à la suite d'une activité intense et, à 75 ans, une petite seconde supplémentaire pour bien comprendre ce qu'on lit, ce qu'on voit. Mais y a-t-il un âge critique dans le processus de vieillissement, un moment fondamental où la vieillesse nous saute littéralement dessus? Selon le docteur Lucier, il y en a deux. Autour de 75 ans, le vieillissement des cellules s'accélère, même s'il n'est pas nécessairement ressenti de façon claire. Après tout, 65 ans et le nouveau 55 ans et 75 ans, le nouveau 65 ans, donc on est généralement encore assez en forme à cet âge. Si la maladie n'est pas venue mêler les cartes, la deuxième étape cruciale se franchit à 85 ans. À partir de là, le corps devient plus fragile et sa résistance aux agressions extérieures est moindre. Enfin, docteur Lucier, quand est-on vieux? Selon mes observations, c'est quand l'âge devient un facteur limitant et donc m'empêche de faire des activités significatives qui m'apportent du plaisir et la sensation d'être bien vivant. Et bien malin qui pourrait y associer un âge. C'était « Quand devient-on vieux ?», un texte de Joanne Mercier, paru le 7 décembre 2024, dans Virage.
Kim Yaroshevskaya n'est plus. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 12 janvier 2025 dans Le Devoir. Pour les uns, elle demeurera à jamais la poupée franfreluche qui tordait avec bonheur les contes de notre enfance. Pour les autres, la douce grand-mère de Passepartout qui ne se faisait pas prier pour raconter de belles histoires. Née à Moscou le 1er octobre 1923, l'actrice, autrice et scénariste Kim Yaroshevskaya est décédée dimanche à l'âge de 101 ans des suites d'une chute il y a quelques semaines, a pu confirmer Le Devoir auprès de proches de sa famille. Enfant d'intellectuels révolutionnaires, la fillette, qui rêvait d'avoir une poupée, portait, comme plusieurs enfants de l'époque, le prénom Kim, lequel était l'acronyme des Jeunesses communistes internationales. À l'âge de 7 ans, elle devient orpheline alors que ses parents sont éliminés par Staline. Recueillie par sa grand-mère, qui vit dans la pauvreté, la petite Kim quitte la Russie à 10 ans, afin d'aller vivre chez une tante à Montréal. N'étant pas de confession catholique, elle est envoyée à l'école anglaise. Elle apprendra le français lors de ses études aux Beaux-Arts. Et Kim créa Franfreluche. Friande de contes depuis sa tendre enfance, particulièrement ceux de Pouchkine, Kim Yaroshevskaya crée le personnage de la poupée Franfreluche au cours d'une improvisation à l'Ordre de Bon Temps, mouvement culturel laïque fondé par Roger Varin en 1946. De cette improvisation naîtront également le clown Fafouin, interprété par Guy Messy, et le pirate Maboule, interprété par Jacques Létourneau, qui seront, avec Franfreluche, les vedettes de Fafouin, de 1954-1955 et de la boîte à surprise 1956-1966, émission pour enfants animée par Pierre Thériault. Après quelques hésitations, elle accepte de prolonger l'aventure télévisuelle de son personnage dans Franfreluche 1968-1971, dont elle écrira tous les épisodes. De 1977 à 1987, elle deviendra grand-mère dans Passepartout. Qu'elle porte les boucles brunes de Franfreluche ou le chignon gris de grand-mère, l'actrice au regard pétillant n'a pas son pareil pour captiver les enfants avec ses contes, qu'elle raconte avec son doux accent et sa voix flûtée. Une femme magique. Elle sait toucher au cœur des gens avec une simplicité déconcertante, résume au bout du fil la comédienne Violette Chauveau, amie de longue date de Kim Yaroshevskaya. Comme enfant, je l'écoutais dans Franfreluche et elle me faisait rêver. Et puis, elle remplissait ma quête de découverte, de créativité, mon besoin de tout tenter. Elle m'a donné le goût de la lecture. J'étais complètement séduite par elle, comme tout le monde, raconte-t-elle. Je l'ai rencontrée plus tard en faisant les contes urbains dans les années 1990 à la Licorne. Et puis c'est devenu une amie, c'est devenu une proche. J'étais chanceuse, elle m'a laissé rentrer dans le livre de sa vie, se souvient la comédienne. Kim Yaroshevskaya et Violette Chauveau échangeaient régulièrement sur le théâtre, l'état du monde ou sur les textes de Madame Yaroshevskaya que Madame Chauveau corrigeait parfois parce qu'elle était toujours soucieuse du français pour que ce soit impeccable. Ses moments privilégiés prenaient souvent des tournures plus personnelles. Des fois, c'était juste pour prendre un thé, pour prendre une vodka, pour faire « allez hop » qu'elle me disait « raconte la comédienne en riant ». Et puis, des fois, c'était pour échanger profondément sur le métier, sur les auteurs, et pour fouiller, farfouiller avec elle, dit-elle. Ça a été des moments d'éternité passés avec elle. C'était des moments magiques, comme elle était si magique, relate Madame Chauveau. C'est un cadeau inestimable d'avoir pu l'avoir dans ma vie, ça, c'est sûr. En plus de connaître la comédienne et l'autrice qu'était Kim Yaroshevskaya, Violette Chauveau a aussi connu la dessinatrice et la chanteuse. Mais elle était modeste, il ne fallait pas trop en parler, se rappelle-t-elle, en mentionnant ses talents en chant. Pour Violette Chauveau, la capacité de Kim Yaroshevskaya d'avoir réussi à garder cette jeunesse, cette tendresse, cette bienveillance à travers toutes les épreuves qu'elle a traversées est particulièrement source d'inspiration. Elle avait une capacité d'émerveillement et une vitalité inaltérable qui était, je crois, aussi une sorte de discipline. Elle ne s'est jamais accordée une nanoseconde d'apitoiement de toute sa vie, alors qu'elle a eu quand même un destin hors norme, raconte pour sa part Pascal Monpetit, comédienne et amie de longue date de Kim Yaroshevskaya. « Je suis certaine que ce qu'elle voudrait qu'on retienne d'elle, c'est ce qu'elle a fait, sa création, mais aussi qu'à travers ses créations, elle nous a donné le goût de faire notre propre création à notre tour », ajoute Madame Monpetit. Toujours pleine d'énergie. Avant sa chute, Kim Yaroshevskaya était encore complètement en forme. Elle avait une marchette qu'elle utilisait très peu. Elle ne voulait pas la prendre, se souvient d'ailleurs Violette Chauveau. Même jusqu'à la fin, quand elle a passé les derniers jours à l'hôpital, elle avait encore son rose aux joues. C'était incroyable, on n'en revenait pas, elle était belle, raconte celle qui, tout comme Pascal Monpetit, a été au chevet de Madame Yaroshevskaya lors de son hospitalisation. Même affaiblie, même à 101 ans, c'était toujours « merci, merci d'être venue », « Merci de venir me voir. » Elle s'excusait de ne pas avoir ses pleines capacités. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Je disais, « Mais arrête, Kim, arrête. On se prend comme on est, tu sais. » raconte d'ailleurs Pascal Monpetit au sujet de la personne la plus poétique qu'elle ait rencontrée. Vous écoutez, Kim Yaroshevskaya n'est plus. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 12 janvier 2025 dans Le Devoir. Même si les deux comédiennes se connaissaient déjà par leur métier, c'est lorsque Kim Yaroshevskaya a demandé à ce que ce soit Pascal Monpetit qui fasse la lecture sur scène de son livre de 2017, « Mon voyage en Amérique », qui raconte sa propre histoire, qu'elles sont devenues amies. « Je tremblais de peur de la faire », se souvient Pascal Monpetit. Je trouvais ça indécent de rentrer là-dedans, mais on a travaillé ensemble, juste elle et moi, chez elle, et ça a été vraiment extraordinaire. On a travaillé longtemps parce qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait au niveau du ton. Elle ne voulait pas que ce soit lu, elle voulait que ce soit raconté, relate Madame Monpetit. Et puis, à chaque fois que je l'ai fait en spectacle, je l'appelais toujours après et je lui disais comment ça s'était passé. « Elle voulait vraiment que je l'appelle à chaque fois », dit la comédienne en riant légèrement. Violette Chauveau a également tenu à remercier Kim pour tout. « Pour toute ta bienveillance, ton émerveillement, pour ta présence entière et apaisante », dit-elle, visiblement émue. De beaux rôles au cinéma. Lauréate de l'Ordre du Canada en 1991 et du Mérite du Français 2003, Kim Yaroshevskaya a souvent joué les immigrantes, tant au grand qu'au petit écran. En 1986, Paul Baillargeon lui offre son plus beau rôle au cinéma dans Sonia, où elle incarne, aux côtés de Lothaire Bluteau, une dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. On la retrouve aussi chez Léa Poole dans La femme de l'hôtel en 1984, Anne Trister en 1986, À corps perdu en 1988 et Le sexe des étoiles en 1993. Dans Cuervo en 1990, téléfilm de Carlos Ferrand, elle incarne des jumelles vivant dans des univers diamétralement opposés. À la télévision, elle joue dans Entre quatre yeux entre 1993 et 1999 et Tribu.com entre 2001 et 2003, pour laquelle elle est mise en nomination aux Gémeaux dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien pour une série ou une émission dramatique en 2002. On la verra une dernière fois dans Cœur battant, un court-métrage de Zim Min Woo, où elle incarne une femme souffrant de la solitude. Elle y partage l'écran avec l'actrice Josquin Beauchemin, alors âgée de 8 ans. J'ai été élevé avec Franfreluche. Dans mon enfance, je n'avais pas accès à la télé, alors mes parents me montraient Sol et Goblet, Franfreluche, etc. Alors, quand j'ai su que je tournais avec Kim Yaroshevskaya, j'étais tellement contente et éblouie, se remémore Josquin Beauchemin à l'autre bout du fil. Elle était tellement gentille, j'avais vraiment l'impression d'être avec ma grand-mère, que j'avais toujours connue, raconte l'actrice. Il y avait des moments où je n'avais pas l'impression de jouer la comédie. J'avais juste l'impression de vivre un vrai moment avec elle, se rappelle-t-elle. Le père de Josquin Beauchemin, Luc Beauchemin, a surtout été marqué par la bonté et la patience de Mme Yaroshevskaya envers Josquin. « Pas de diva ici », affirme ce dernier, en parlant de l'actrice originaire de Russie. Une femme de théâtre. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Kim Yaroshevskaya poursuivra une carrière d'autrice. En 1998, elle publie « La petite Kim » chez Boréal, conte à saveur autobiographique illustré par Luc Melançon, où une fillette russe désirant une poupée se voit offrir un fusil par ses parents afin qu'elle devienne forte et courageuse. Paraît en 2012 « Conte d'humour et de sagesse » chez Planète Rebelle, qu'elle destine aux adultes et non aux enfants. Bien que la télévision et le cinéma l'aient choyée, l'actrice aimait par-dessus tout les planches. À Stratford, dans les années 1970 et 1980, elle a d'ailleurs joué Shakespeare. Dans les grands théâtres montréalais, elle a interprété Tennessee Williams, Ionesco, Tchekhov, Lorca, Pirandello, Camus, Robert Guric et Régent Ducharme. Parce que même si les gens me parlent d'abord de ce que j'ai fait à la télé, c'est au théâtre que j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière, confiait-elle à Michel Belair dans Nos Pages en janvier 2012, alors qu'elle se préparait à jouer dans Vigile, ou Le Veilleur, de Maurice Paniche avec Éric Bernier dans une mise en scène de Martin Fauché au Rideau Vert. Pluie d'hommages de la classe politique. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a rendu hommage à celle qui a captivé l'imaginaire de milliers d'enfants québécois assis devant la télévision familiale après l'école, dans un message sur X. « J'ai eu l'honneur de la nommer commandeur de l'Ordre de Montréal en 2023. C'est une grande Montréalaise qui nous quitte aujourd'hui, mais son héritage ne sera jamais oublié », ajoute Mme Plante. Le premier ministre du Québec, François Legault, a également offert ses condoléances aux proches de Mme Yaroshevskaya sur X, et il a remercié Franfreluche de nous avoir raconté des beaux contes à sa manière. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, s'est lui rappelé comment, en revenant de l'école, on s'installait devant la télé avec un biscuit et un verre de lait pour l'entendre chanter « Franfreluche va raconter un beau conte à sa manière ». Le député péquiste Pascal Bérubé a souligné son héritage qui la dépasse et qui continuera de faire rêver le Québec et ceux qui s'y joignent, bien longtemps après son départ. « Les Québécois l'ont aimé et chéri. elle qui, par son talent et son parcours unique, a contribué de manière éclatante à l'avancement et au développement de notre culture, à la télévision, au théâtre et ailleurs, écrit-il dans un message sur X. Le 30 mai 2017, Kim Yaroshevskaya est devenue compagne des Arts et des Lettres du Québec. Un honneur totalement mérité pour cette grande dame qui a conquis des générations d'enfants, petits et grands. C'était « Kim Yaroshevskaya n'est plus », un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 12 janvier 2025 dans Le Devoir.
La folie des clubs de lecture. Un texte de Mario Girard paru le 21 janvier 2025 dans La Presse. On va commencer l'année avec une nouvelle réjouissante. La popularité des clubs de lecture atteint des sommets. Apparu dans les années 1990, le phénomène prend une ampleur sans précédent. Partout dans le monde, des groupes de lecteurs se multiplient. Leur but? Exprimer leur point de vue sur des livres qu'ils ont dévorés, écouter ce que les autres ont à dire, découvrir ce qu'ils n'ont pas vu, mais surtout, faire partager l'émotion qui les habite. Oubliez la formule classique de groupe réuni dans un salon autour d'un thé et de biscuits. Les clubs de lecture épousent aujourd'hui une foule de concepts. La pandémie nous a évidemment laissé en héritage les rencontres virtuelles. De nombreux clubs de lecture sont hébergés sur des plateformes numériques. Fini les frontières. Ces groupes, qui peuvent réunir des dizaines de milliers de lecteurs, BookTok ou Goodreads, sont de bons exemples, ne cessent de grossir leur rang. La fin de la pandémie a donné un nouvel élan aux clubs de lecture. Pris d'une irrépressible envie de rencontrer des gens et d'échanger avec eux, beaucoup ont sauté sur ces clubs et ont réinventé la formule. À Londres, où le phénomène est très fort, il existe un Walking Book Club qui offre la chance aux gens de discuter de littérature tout en marchant dans le décor enchanteur de certains parcs londoniens. Il y a aussi des clubs de lecture qui sont formés autour des valeurs ou des affinités d'un groupe de gens en particulier. C'est le cas du Queer Reads London, où la littérature LGBTQ+ est privilégiée, et du Left Book Club, où des idées comme la lutte contre le fascisme ou la paix dans le monde sont mises de l'avant. Il y a même des gens qui se rassemblent dans des bibliothèques, des bars ou des cafés pour lire ensemble, en silence. Une activité idéale pour les introvertis. Le concept, qui permet aussi des échanges, a été lancé à San Francisco il y a une dizaine d'années. Il existe aujourd'hui près de 500 clubs de ce genre dans une cinquantaine de pays. Les clubs de lecture ont longtemps réuni des cinquantenaires. Ce n'est plus le cas. La moyenne d'âge est maintenant très jeune. Portée par les réseaux sociaux, la tendance séduit hautement la génération Z. Reading is sexy, a déclaré la jeune actrice Kaya Gerber, elle-même à la tête d'un club de lecture. L'une des raisons qui explique cet engouement est le rôle de certaines personnalités qui n'hésitent pas à créer leur club de lecture ou à devenir des influenceuses dans le domaine. Reese Witherspoon, Dakota Johnson, Natalie Portman ou Dua Lipa surfent allègrement sur cette vague. Elle succède à Oprah Winfrey, l'une des premières vedettes à utiliser son influence pour promouvoir ses coups de cœur. Face à ces mouvements de masse, les éditeurs ne peuvent fermer les yeux. Ces clubs de lecture sont des Eldorado pour eux. Je lisais dans le magazine Actualité que des éditeurs espagnols et mexicains établissent des liens avec des centaines de clubs de lecture. On les considère désormais comme essentiel pour la promotion d'un livre. Il semble que cette stratégie ne soit pas encore répandue au Québec. Parlons du Québec. Il était récemment question, à l'émission 15-18, de Sujet Clos, un club de lecture québécois qui ne cesse d'étendre ses tentacules. Créé par Maud de Fizet dans la région de l'Outaouais, le club a des sections à Gatineau, Boucherville, Chambly, Saguenay, Rosemère, Sherbrooke, Saint-Jérôme, Trois-Rivières, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et dans d'autres villes. Plus je prenais conscience que les clubs de lecture sont un phénomène mondial très puissant, et plus je me demandais pourquoi on ne fait pas la même chose avec la musique et le cinéma. La seule réponse que j'ai trouvée se trouve dans la relation ultra-intime que nous avons avec un livre. Celui-ci entre en nous et n'appartient qu'à nous. De savoir que partout dans le monde, des gens qui ne se connaissent pas ressentent le besoin de se retrouver pour partager ce théâtre de l'esprit me redonne foi en l'humanité. Mariana Mazza et la fureur de lire. Je reste sur la passion des livres en vous parlant de la nouvelle émission de Mariana Mazza, Livre ouvert, qui a pris l'antenne récemment. D'abord, j'aimerais revenir sur une chronique dans laquelle je déplorais la disparition quasi complète des émissions culturelles à la télévision québécoise. J'utilisais la nouvelle émission de Mariana Mazza pour en illustrer la rareté. L'humoriste a retenu de cela que je jugeais qu'elle était indigne d'animer une telle émission. Si elle me lisait plus souvent, elle comprendrait que s'il y en a un qui combat le côté puriste dans l'art, c'est bien moi. Mariana Mazza est revenue là-dessus lors de son passage à Tout le monde en parle. Présente sur le plateau, Penelope McQuaid a tenté de lui dire que ce n'était pas le sujet de ma chronique, mais la pauvre s'est fait fermer le clapet par Mariana. Le problème, ce n'est pas que Mariana Mazza anime une émission qui traite de livres. Le problème, c'est qu'elle soit la seule. C'était ça, le propos de ma chronique. Cela dit, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt les deux premiers épisodes de son émission. D'ailleurs, je remarque qu'on n'en parle plus comme d'une émission littéraire, c'était le cas lors du dévoilement, mais d'une émission de lecture. Le concept fonctionne à 100%. La réalisation est vivante, Mariana Mazza établit des contacts très chaleureux avec ses invités, Boucard Diouf, France d'Amour, etc. Les sujets sont originaux, visite d'une bibliothèque de prison, zoo lecture. Il se dégage de cela un élan de passion contagieux. Les moments les plus forts ont lieu lors des échanges de suggestions de lecture entre deux personnes. On est alors dans une sorte de club de lecture. Prévoyez un carnet et un stylo. Vous en aurez besoin pour noter des titres. C'était « La folie des clubs de lecture », un texte de Mario Girard paru le 21 janvier 2025 dans La Presse.